VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En RDC, le président de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, Constant Omari, et trois autres dirigeants sportifs congolais sont sous contrôle judiciaire à Kinshasa pour une affaire d'utilisation de fonds publics. Constant Omari, Barthélémy Okito, secrétaire général au sport de la RDC, ainsi que Roger Bondembe et Théobald Binamingu, deux vice-présidents de la FECOFA, sont en garde à vue depuis 21h30 mardi soir et sont en instance d'être entendus, a déclaré à l'AFP un magistrat du parquet sous couvert d'anonymat. Selon ce magistrat, les quatre intéressés vont être interrogés sur l'utilisation des fonds publics dans l'organisation des rencontres sportives, des équipes nationales de football et des clubs engagés dans les compétitions africaines. Ces dirigeants sportifs sont entendus sur des présumés détournements $2 million destinés à l'organisation de quatre matchs de football, a déclaré pour sa part Maître Alain Makengo, un de leurs avocats. Le président de la FECOFA, Constant Omari, est aussi vice-président de la Confédération africaine de football et membre du comité exécutif de la FIFA, la Fédération internationale de football. Et on essaie toujours coup de balai dans l'appareil judiciaire congolais. 200 magistrats ont été révoqués par ordonnance présidentielle. Des magistrats faussaires relevés de leurs fonctions au terme d'une enquête menée par les autorités judiciaires dans le but d'améliorer l'image de la justice. Mais si la décision est saluée par les avocats et magistrats congolais, elle l'est moins par la population qui veut plus d'action pour une justice de qualité. Les précisions de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Cette décision résulte d'une enquête consécutive à une résolution de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa 5e session extraordinaire d'octobre 2017. 3000 magistrats congolais ont subi cette enquête administrative qui a abouti donc à la révocation de 200 d'entre eux. Cela suffit-il à renforcer la qualité de la justice congolaise accusée souvent de manipuler et de corrompus? Des quinois interrogés par VOA Afrique ne sont pas unanimes sur la question.
Pour moi, je fustige d'abord cette révocation parce que nous sommes dans un pays où les taux de chômage est très avancé.
Le plus grand problème, ce n'est pas seulement qu'il soit révoqué. Qu'est-ce qu'on a fait de après révocation? Quelles sont les sanctions? Parce que imaginez, vous êtes dans une république avec 200 magistrats où au bout d'un certain temps, ils ont eu à lire la loi, à donner certaines sanctions, à décider au sujet de la loi alors qu'ils n'étaient pas qualifiés pour cela. Sûrement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Je pense bien que c'est un problème qui devait être réparé en amont et en aval.
Ce genre de décision est pour renforcer la qualité de la justice et la qualité sur le pouvoir judiciaire aussi. Et l'État aussi doit fournir un effort pour recruter le nombre de perdants de magistrats dont qui sont partis.
Ici, on se contente de dire qu'il y a 200 magistrats qu'on a révoqués et puis c'est tout. Moi, je pense que c'est très grave. Posez-vous la question des gens qui se retrouvent au niveau des prisons parce que ces magistrats, dit des faux magistrats, ils ont eu à donner des sentences par rapport à leurs problèmes. Au lieu de saluer ces démarches, on devait plutôt se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver effectivement à ces 200 magistrats? Y aura-t-il des sanctions ou pas? S'il n'y aura pas des sanctions, en tout cas, ça ne vaut pas la peine.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, Gambie, plus d'un an après le départ du pouvoir de l'ex-président Yahya Jammeh, des familles de victimes de son régime réclament aux nouvelles autorités la vérité sur leurs morts et disparus. Les proches des victimes ont manifesté mardi à Banjul, la capitale. Morgane Guiriek.
Nous voulons la justice maintenant, ont scandé une trentaine de manifestants dans la capitale gambienne lors de cette marche pacifique, rapporte l'AFP. L'an dernier, les autorités avaient annoncé que des dépouilles de Gambiens tués en luttant pour la fin du régime de Jammeh avaient été exhumées. Une année plus tard, leurs familles et amis n'ont pas d'informations sur leur sort, a déclaré Zainab Lowe, une sœur d'un membre de la garde présidentielle disparu en 2006. Le temps d'attente est terminé. La vérité doit être dite. Nous avons besoin de justice, a-t-elle ajouté, au nom des familles des victimes de M. Jammeh, accusées de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire par des opposants et défenseurs des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Niger, reprise des cours pour les 23 000 étudiants de l'université de Niamey après un mois de grève. Les étudiants s'étaient mis en grève pour exiger la réhabilitation de 5 étudiants exclus en mars de l'université. Plus de détails avec Marie Benson.
Sita Diabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey, affirme que les cours ont repris pour permettre au gouvernement d'entreprendre des négociations. Cela ne veut pas dire que les cours ont repris définitivement, car nous n'avons pas encore obtenu la satisfaction à nos principales revendications, a-t-il ajouté, précisant que les forces de l'ordre déployées sur le campus ont été retirées. Le mois dernier, 5 étudiants avaient été exclus de l'université de Niamey après avoir été accusés de violence et d'agression envers un de leurs professeurs, qualifiant l'incident d'altercation mineure et ses exclusions injustes, disproportionnées, illégales et arbitraires, leurs camarades avaient donc entamé une grève. Ils souhaitaient aussi l'apurement de 6 mois d'arriérés de bourse. La semaine passée, le Parlement nigérien a annoncé qu'une enquête parlementaire allait être ouverte afin d'analyser la situation de l'université de Niamey, qui est la plus importante du Niger.
En Égypte, l'armée égyptienne a annoncé ce mercredi avoir tué un important chef djihadiste dans la péninsule du Sinaï, où le groupe État islamique mène une insurrection contre le régime du président Abdel Fattah al-Sissi. Selon un communiqué militaire, les forces égyptiennes ont attaqué des zones montagneuses et tué Nasser Abou Zakoul, leader du groupe terroriste dans le centre du Sinaï, après d'importants échanges de tirs. L'armée égyptienne a lancé le 9 février une vaste offensive anti-djihadiste, notamment dans le Sinaï, théâtre d'une insurrection de la branche locale du groupe État islamique. Au total, selon des chiffres officiels, plus de 100 djihadistes et au moins 22 militaires ont été tués depuis le début de cette opération baptisée Sinaï 2018. En Tanzanie, les inondations à Dar es Salaam ont causé la mort de 14 personnes au moins. Des pluies torrentielles se déversent sur le pays depuis le week-end dernier. Abdourahman Dia.
Le commandant régional de la police de la capitale économique tanzanienne, Lazaro Mambosasa, a donné devant la presse le dernier bilan des inondations. Selon les médias locaux, les fortes pluies ont par ailleurs fait au moins une dizaine de morts dans d'autres provinces, notamment dans 4 régions du nord, dont Arusha. Lundi, le gouverneur de la province de Dar es Salaam, Paul Makonda, a ordonné la fermeture des écoles primaires pour 2 jours et appelé les populations vivant dans des zones jugées dangereuses à les quitter immédiatement. Des secouristes se mobilisaient pour sauver des personnes bloquées dans les débris de leurs habitations. Les autorités tanzaniennes ont suspendu les visites touristiques dans le parc de Manyara, dans le nord du pays, à la suite de la destruction des routes qui y mènent. En 2015, plus de 50 personnes avaient été tuées dans des inondations ayant frappé le pays. Selon un rapport de l'organisation Nature Climate Change, la Tanzanie perd 2 milliards de dollars chaque année à cause des inondations.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump annonce qu'il y a eu des discussions à très haut niveau entre les États-Unis et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Le chef de l'exécutif américain a fait cette révélation à l'occasion de sa rencontre mardi en Floride avec Shinzo Abe, le premier ministre japonais. M. Trump doit rencontrer dans quelques semaines Kim Jong-un lors d'un sommet historique. Précision de Jean-Roger Bion.
Le président américain a fait preuve d'un certain optimisme sur les préparatifs de ce sommet. Il a parlé de 5 lieux possibles pour ce tête-à-tête historique qui aura lieu probablement début juin si tout se passe bien selon lui. D'après le Washington Post, le directeur de la CIA et futur secrétaire d'État, Mike Pompeo, a effectué une visite secrète à Pyongyang au cours de laquelle il a rencontré Kim Jong-un lors du week-end de Pâques. La Maison-Blanche comme la CIA se sont refusés à tout commentaire. La Maison-Blanche a par ailleurs précisé que M. Trump n'avait pas directement été en contact avec le leader nord-coréen. M. Trump a aussi affirmé être résolument favorable aux discussions entre les deux Corées sur la nature de leurs liens à 10 jours d'un sommet entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ils ont ma bénédiction pour discuter de la fin de la guerre. Les gens ne réalisent pas que la guerre de Corée n'est pas terminée, a-t-il expliqué. M. Trump semble confirmer ainsi la possibilité d'un éventuel traité de paix pour remplacer l'armistice qui a mis fin aux hostilités sur la péninsule à l'issue de la guerre 1950-1953.
Et pour terminer, Barbara Bush, épouse de l'ancien président américain George H.W. Bush et mère de l'ex-président George W. Bush, est décédée mardi à l'âge de 92 ans. Le président américain Donald Trump a salué dans un communiqué transmis par la Maison-Blanche la solide dévotion de Madame Bush pour son pays et sa famille. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.